Il est 7h08, bienvenue à celles et ceux qui ouvrent les yeux en ce moment. On vous accompagne en douceur, enfin, en douceur, ouais. Ouais.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
La douceur, c'est plutôt elle, on va pas se mentir si tôt le matin. C'est Julie Gay qui nous présente le Flash, bonjour Julie.
Quelle gentillesse, merci Loïc, bonjour Loïc, bonjour à tous. Un jeune homme moqué car il porte une bague, une fille traitée de garçon manqué parce qu'elle a les cheveux courts. Les témoignages de victimes de stéréotypes de genre ont poussé les élèves des écoles primaires de Monthey à aborder ces thématiques en classe. Hier, au lendemain de la journée des droits de l'enfant, ils ont mené des discussions en classe sur la thématique du genre. Chez les plus jeunes, les représentations autour des jeux, souvent genrés ont été abordés. Les élèves plus âgés ont pour leur part évoqué les questions liées aux émotions, à la répartition des tâches ménagères ou encore au choix de métiers parfois stéréotypés. Grâce est déléguée de la classe de 8H à l'école des Genêts à Monthey. La jeune femme âgée de 11 ans a modéré la discussion qui a eu lieu avec ses collègues.
Je le ressentis assez bien parce que les gens de ma classe ils sont assez ouverts, ils écoutent, etc. Aussi, je les connais, du coup, bah, je sais qu'ils sont sympas et puis je me sentais à l'aise de faire ça devant eux.
Qu'est-ce qui t'a marqué, qui a été dit?
Bah, c'est leur témoignage en sachant que c'est souvent les membres de leur famille qui leur disent qu'ils peuvent pas faire ça parce que c'est soit pour les filles, soit pour les garçons.
Ça t'a marqué?
Exactement.
Pourquoi ça t'a marqué?
Bah, parce que pour moi, la famille, elle devrait essayer de pousser les enfants à être ce qu'ils veulent et pas essayer de les modeler pour qu'ils deviennent exactement comme la société a envie qu'ils soient.
Des propos recueillis par Justin Gray. Outre ces discussions, les écoles primaires de Monthey ont affiché des banderoles avec des slogans dénonçant les stéréotypes de genre. Par exemple, les garçons aussi savent danser et ont peur du noir. Ou les filles aussi conduisent des camions et peuvent être musclées. À Aigle, les économies d'énergie vont passer par une meilleure gestion de l'éclairage public ces 3 prochaines années. Un plan directeur en ce sens a été adopté le 17 novembre dernier par le conseil communal qui a décidé d'octroyer un montant d'1 750 000 francs à la municipalité. Au programme, l'abaissement voire la suppression de l'éclairage dans certaines zones, mais aussi le changement des mâts et des têtes lumineuses LED considérées comme vétustes. La LED est présente aujourd'hui sur le 56% des candélabres communaux. L'objectif est de parvenir prochainement à 100%. Une bonne solution selon le municipal Aiglon chargé de l'environnement, Stéphane Montangéro.
Les LED ont fait pas mal de progrès au terme de chaleur de lumière. Hein. On avait ces lumières très blanches d'abord. Maintenant, on a des lumières qui sont un tout petit peu plus chaudes et qui permettent de mieux éclairer, aussi avec moins de dégâts, que ce soit pour la rétine humaine ou que ce soit pour la faune en général. Et on va pouvoir, avec ces LED, aussi avoir une grosse consommation d'électricité au moins. Quand on a fait le préavis, on était sur une base de 22 centimes. À l'heure actuelle, on est plutôt aux alentours des 35. On a vu des pics qui montaient encore plus haut. Et avec 22 centimes, c'était presque 70 000 francs qu'on économisait par année.
Stéphane Montangéro au micro de Thierry Nicolet. La mise en place de ce plan doit en outre permettre aux autorités de considérablement limiter les sorties d'argent de la ville. En termes de dépenses en électricité, la facture annuelle pourrait baisser de près de 20 000 francs. Rien ne leur manquait de la Suisse, sauf la raclette. C'est en se faisant cette réflexion qu'Alain et Kim, qui partagent leur quotidien entre la Suisse et l'archipel de Stockholm, ont décidé d'ouvrir une épicerie spécialisée dans le fromage valaisan. 600 kilos sont sur le point d'arriver dans le nord de la Suède. Après une étude de marché, c'est la raclette de Bagne qui a été choisie pour le palais suédois. Alain Fogel a bon espoir que les habitants prennent l'habitude d'offrir une raclette à leurs amis à l'heure du souper.
En Suède, tous les vendredis, il y a le Fredagsmus, c'est-à-dire les gens qui s'apprécient ou les gens de la même région ou du même quartier se réunissent pour manger. Et là, ça fait quand même 15 ans qu'ils sont en train de se préparer des burritos ou des repas à la canadienne où chacun amène ce qu'il veut comme produit. Alors la raclette, là, ça a beaucoup plu. Et il y a aussi les enfants. Les enfants adorent regarder le fromage commencer à fondre, jouer avec, regarder comme il fait des bulles, choisir le moment de racler eux-mêmes et après d'ajouter les ingrédients qu'ils veulent bien y rajouter.
Un sujet réalisé par nos confrères de Rhône FM. Quelques 5000 militaires participent dès aujourd'hui et pour une semaine au plus grand exercice de l'armée suisse depuis 33 ans. Les opérations se dérouleront jusqu'au 28 novembre dans les cantons de Berne, Soleure, Argovie, Lucerne et Zurich. Nommée Pilum 22, l'opération consiste à entraîner des procédures standards et des engagements contre des groupes armés, a indiqué le groupement de la défense. Pour représenter l'adversaire, un groupe de guerre électronique et un détachement du commandant des forces spéciales y participeront. La planification de Pilum 22 a duré 2 ans. Le dernier exercice de cette envergure date de 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Seul un oui est un oui. C'est le slogan martelé hier par plusieurs organisations devant le Palais fédéral à Berne. Une pétition munie de plus de 400 000 signatures a été déposée pour appeler le Parlement à ancrer le principe du consentement dans la révision du droit pénal en matière sexuelle. Le Conseil des États a voté pour le principe non, c'est non. Mais si le Conseil national suit cette voie, la Suisse sera à la traîne en comparaison internationale. Cyrielle Huguenot, responsable de campagne chez Amnesty International.
Il y a maintenant 14 pays en Europe qui ont opté pour cette solution « Seul un oui est un oui ». Il y a seulement 2 pays qui ont le « non, c'est non ». C'est pour ça qu'on voit vraiment ces dernières années une tendance en Europe. Les pays qui ont « non, c'est non », ils l'ont fait en 2016. Et à partir de 2018, il y a eu de plus en plus de pays qui ont plutôt opté pour l'autre modèle parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un message clair, un message fort qui protège l'autodétermination sexuelle, qui répond aux normes des droits humains au niveau international. Et c'est une solution tournée vers l'avenir et pas vers des stéréotypes passés où on attendrait justement qu'une personne soit passive et qu'elle dise simplement non quand ça ne lui convient pas.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vieux-Mier. Le principe de consentement est soutenu par de nombreuses parlementaires, de droite comme de gauche. Le Conseil national se prononce début décembre. Les infections d'origine bactérienne sont la 2e cause de décès dans le monde après les troubles cardiaques. C'est ce que montre une très vaste étude publiée aujourd'hui. Cette recherche publiée dans le Lancet a sélectionné 30 de bactéries les plus couramment impliquées dans des infections et évalué combien de décès leur étaient associés. Le staphylocoque doré et le pneumocoque figurent parmi les bactéries les plus meurtrières. Et en sport, en basket, le premier derby valaisan de la saison n'a pas souri au BBC Trois-Torrents. En déplacement à Vétros samedi soir pour le compte de la 5e journée de SB League Women, les joueuses chablaisiennes ont subi la loi d'Elios. Malgré une bonne entame de match, les Chorgues sont passées à côté de leur 3e quart-temps. Les protégés de José González Danta ont fini par s'incliner 65-55 devant leurs voisines. Avec une seule joueuse étrangère dans ses rangs, la formation bavalaisane compte donc sur ses éléments helvétiques. Reste qu'en coulissons s'active pour accueillir un potentiel renfort d'ici à cet hiver. Les précisions de Katia Clément, coach assistante du BBC Trois-Torrents.
On va croiser les doigts et espérer. On a des discussions avancées. On espère qu'elle arrive, on espère que ça se passe bien parce que ça nous donnerait un peu une assise à l'intérieur qui nous manque un peu actuellement quand ça devient difficile.
Vous terminez le premier tour à la 4e place. Quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ?
C'est mi-figue, mi-raisin. Je pense que on a fait un bon match contre Nyon qu'on doit garder en tête parce que voilà, on a vécu avec les Suisses et on a essayé. Ce match-là, on doit le garder en tête parce qu'on a perdu, mais en même temps, il y a des choses positives qui en sortent. Et puis le match qui était important pour nous de gagner, c'était Puy, et ça, on l'a fait. Donc ce qu'on devait absolument gagner, on l'a fait. Après, on peut aller chercher Puy, on peut aller chercher Nyon, on peut aller chercher Elios, mais ça, le deuxième tour.
Katia Clément répondait au micro de Valentin Marclay. À l'heure de la trêve internationale, le BBC Trois-Torrents affiche un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. La formation bavalaisane pointe ainsi à la 4e place du classement.